en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Disons déjà que Charles Trenet nous a quittés. Nous en parlons aujourd'hui avec Jacques Pessis, qui nous a rejoint au studio de Canal Académie. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous sortez un livre, Trenet, le philosophe du bonheur, aux éditions L'Archipel. Très joli, très intéressant, très humain. Dans ce livre, nous découvrons un portrait intime, un Trenet dont la vie est une fête, mais aussi quelquefois des difficultés, de la nostalgie aussi, de la mélancolie. C'est une biographie alimentée de confidences, puisque vous avez été le confident, à le dire, de Monsieur Trenet, un ami, et vous avez même tout fait pour que l'Académie des Beaux-Arts lui ouvre ses portes. Je tiens à le souligner, ce fut le cas en 1999. Évidemment, nous allons en dire un mot. Est-ce que vous pourriez raconter tout d'abord votre première rencontre avec le fou chantant ?
Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours aimé le fou chantant, je ne suis pas le seul. Je l'ai interviewé plusieurs fois pour la radio, pour la presse. Et puis un jour, j'allais à tous ces gars-là. Quand il revient, je suis invité à dîner à Besançon chez un de ses amis, qui est devenu un des meilleurs amis, Henri Veil, un industriel, qui était tombé en Trenetterie 50 ans plus tôt, qui a vécu pour les chansons de Trenet. Et puis après le concert, on me dit « Charles Trenet, viens dîner ». Donc j'ai été invité, je suis très flatté. Il est minuit et demi, il dit « Oh, je vais boire une bière, aller me coucher ». Vers 3h du matin, il délire complètement en racontant des anecdotes insensées. Il remet Brielli à sa place, qui parlait un peu trop. Vers 4h du matin, il demande le cognac, qu'il avale la bouteille. Et vers 5h30 du matin, il dit à un professeur en médecine qui est là « Monsieur le professeur, pour ne pas être malade après le cognac, il faut boire du whisky ». Et vers 9h du matin, après avoir avalé pratiquement la bouteille de whisky, il nous insultait parce qu'on partait déjà. Donc, et j'ai découvert un Trenet au-delà de ses chansons, qui était justement un philosophe du bonheur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait le privilège d'avoir connu le siècle entier, qui aimait en rire, qui aimait raconter et qui aimait partager, et pas seulement les plats sur la table, mais les nourritures intellectuelles.
Il était très ami, il aimait l'amitié, il aimait la fidélité aux amis. Vous avez été très proche de lui. Vous pourriez nous raconter un peu le personnage dans l'intimité ?
Alors, il y a deux Charles Trenet. Il y a Charles Trenet qui a une mauvaise réputation, parce que c'est un ours qui parle à personne, qui était quelquefois odieux et de mauvaise foi avant un gala. Ça, c'est le personnage public tel qu'on le connaît, parce qu'il ne se confie qu'à quelques personnes. Et j'ai eu la chance, pendant près de 20 ans, de faire partie du petit cercle d'amis avec qui il se sentait en communion d'écriture et d'anecdotes et d'époque. Et c'est vrai que ce Trenet était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gentil, beaucoup plus généreux que l'autre. C'est-à-dire que quand vous aviez la chance d'être un ami, d'abord, il vous appelait pour déjeuner, vous n'aviez pas intérêt à refuser parce que c'était très mal pris, et vous préveniez votre bureau que vous ne seriez pas là avant le lendemain matin parce que les déjeuners duraient entre 8 et 12 heures. Il précisait, de toute façon, ma bonne santé, c'est que je mange une fois par jour. J'ai oublié de préciser le détail du nombre d'heures. Et puis surtout, c'est un homme passionnant et passionné. Et moi, le vrai Trenet que quelques-uns connaissent, c'est l'homme qui nous a appris à vivre le bonheur quoi qu'il arrive. On a tous des drames, on a tous des cauchemars. Et il partait du principe que la vie est un rêve. De temps en temps, le rêve se termine parce qu'il y a un cauchemar. Le cauchemar, on le digère et le rêve revient. Et il disait quelque chose qui est devenu ma devise, c'est quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve. Et ce Trenet-là m'a appris à traverser les moments les plus difficiles. Alors Trenet, c'était quelqu'un qui était joyeux, ou alors quand il était malheureux, il n'en parlait pas. Par exemple, quand quelqu'un disparaissait, on en parlait joyeusement autour d'une table en se souvenant des bons moments. Si on était tous au cimetière, je l'ai vu, avec notamment Madame Breton, son éditrice, il ne venait pas avec tout le monde. Il disait « Je n'assiste pas à une dernière comme à une première. » Il venait après se souvenir. Et c'était quelqu'un, quand il avait un drame, fermait sa porte. Et quand le cauchemar était terminé, il la rouvrait, le sourire aux lèvres, avec un peu de nostalgie, mais il fallait vraiment le connaître pour mesurer cette nostalgie.
Quel a été le moment le plus important dans sa vie ? Vous parlez du sud de la France, évidemment, d'Albert Bozil qui a lancé sa carrière, cette soif de culture du départ. Mais est-ce qu'au final, c'est le succès qui l'a marqué le plus ?
Charles Trenet a voulu venir à Paris pour faire du cinéma. Il devient poète, chanteur, et pendant 70 ans, il mène une carrière hors du commun. Et je pense que tous les moments ont été importants. C'est-à-dire que lorsqu'en 1938, il devient une vedette sans se rendre compte de ce qui se passe, c'est important. Après, tout passe très vite. Quand il prend sa retraite, il fait ses adieux en 75, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de voir la vie passer. Mais quand il revient et qu'il voit que tous les jeunes sont là, c'est important. Je pense que Trenet, ce qui était important, c'était les moments de joie. C'est-à-dire tout moment qu'il saisissait, où il y avait le bonheur d'être devant le public, d'être avec des amis, c'est ce qui lui convenait. Le reste, c'était l'anecdote de la vie.
Pouvons-nous parler un instant de l'Académie ? Une anecdote, donc avant d'être élu en 1999 à l'Académie des Beaux-Arts, il postule à l'Académie française. À cette époque, on est début 82, vous écrivez un article dans Le Parisien que vous intitulez « Une fleur bleue chez les habits verts ». J'ai beaucoup aimé cette expression, j'aimerais que vous nous racontiez. Est-ce qu'il a été très déçu de ne pas rentrer à l'Académie française ?
C'est une histoire très compliquée. C'est-à-dire que d'abord, il voulait rentrer à l'Académie française avec Marcel Pagnol. Pagnol l'avait poussé. Pagnol disparaît. Et un jour, en passant devant l'Académie, je crois à la suite d'un déjeuner bien arrosé, il dit « Allez, je présente ma candidature ». Mais comme ça, il fait sa lettre, je crois, dans sa voiture, devant l'Institut. Et puis, il est pris au jeu. Il est pris au jeu, puis c'est une période de traînée où il s'était retiré, il n'avait pas envie de faire grand-chose. Donc ça l'amusait de voir ça. Et puis, il a été battu pour des raisons stupides, parce que je pense qu'il aurait mérité d'entrer à l'Académie. C'est aussi de sa faute, hein, parce qu'il ne faisait pas les visites. Et puis, il avait une mauvaise image, une image qu'il n'a jamais voulu gommer. Et il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur lui. Je lui ai dit un jour, mais pourquoi Charles, vous ne racontez pas la vérité ? Donc, il a été battu. Mais je sais, il en a été très triste, même s'il n'en a jamais parlé. Et la preuve, je l'ai trouvé en visitant sa maison natale, voici quelques mois. Dans un tiroir, il avait gardé tous les dossiers des articles de presse sur l'Académie française. Et il en avait été très blessé. Il avait gardé ça comme une blessure profonde. Et puis, les Beaux-Arts l'ont élu, et là, je vais vous confier quelque chose, c'est que je suis entièrement responsable de l'élection. Charles ne voulait pas en entendre parler. Et grâce à un homme exceptionnel qui s'appelle Marcel Landowski, qui a été chancelier d'institut, que je connaissais bien, on a décidé de le présenter. On lui a fait signer la feuille de candidature, et il a dit « mais je n'ai aucune chance ». Et avec Marcel Landowski, on a fait une campagne où beaucoup d'académiciens ont parlé avec Marcel, moi-même j'ai vu 2-3 personnes, et je n'oublierai jamais le message sur mon répondeur que j'ai gardé, où Landowski me fait « ça y est, Trenet est élu », d'une voix, à la surprise générale. J'appelle Charles qui n'en revient pas. C'est pas possible, c'est impossible. Il était en voiture dans le bois de Vincennes. Et le soir même, il arrive chez Lippe pour retrouver ses nouveaux confrères. Il était très très ému, très étonné, très heureux. Et malheureusement, il nous a quittés 3 ans plus tard, donc il n'a pas pu rentrer, parce que c'était long d'entrer à l'Institut des Beaux-Arts. Et on était à l'époque en pourparler avec Jean-Paul Gaultier, qui devait faire le costume d'académicien.
Une très belle anecdote. Merci de nous faire revivre ces instants et pour lesquels vous avez beaucoup compté. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'après-Trenet dans la chanson française actuelle ?
Alors, Trenet,
qu'est-ce qui reste de Trenet ?
Que reste-t-il de Charles Trenet ? Je me suis toujours demandé d'abord s'il y aurait un après-Trenet, parce qu'il était unique. Et c'est vrai que Trenet était le maître de Brel, de Brassens. Brassens a toujours dit que ses premières chansons, il les a jetées parce que ça ressemblait à Trenet. Brel a dit « sans Trenet, nous serions tous des comptables ». Et aujourd'hui encore, il y a des jeunes que je croise dans les émissions de télévision qui disent ben, « on adore Charles Trenet sans trop savoir qui c'est ». Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est mort vieux, riche et célèbre, et que c'est un problème aujourd'hui. Et il n'a pas sauté par une fenêtre, il n'a pas eu une grave maladie. Donc pour les médias, ce n'est pas à la mode. Donc on n'a pas de scandale à sortir, donc on n'en parle pas. En revanche, le public est là, et notamment les écoles. On ne compte plus le nombre d'écoles où on entend des chansons de Charles Trenet et où on apprend Charles Trenet. On apprend, il y a de la joie. Le Jardin extraordinaire, Papa Pic et Maman Cou et d'autres chansons. Et c'est au programme des scolaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Trenet est en train de revenir par les scolaires. Alors c'est vrai qu'on l'entend plus beaucoup à la radio. Ces disques sont anciens, on les trouve difficilement. C'est tellement moins important qu'un produit d'aujourd'hui. Et je pense que ça va revenir et que petit à petit, Trenet va retrouver sa postérité. Brassens est mort il y a 30 ans, on en parle aujourd'hui. Pendant 10 ans, il y a eu un trou noir. Et je pense que nous sommes à l'aube de la postérité de Trenet par différentes choses, et j'espère y contribuer, parce qu'il est indispensable à la chanson et indispensable dans notre monde à travers les 1000 chansons qu'il a écrites, dont 60 succès internationaux. Est-ce que vous connaissez un auteur, compositeur, interprète français qui a aujourd'hui 60 succès internationaux ? Il n'y en a pas d'autre que Charles Trenet.
Vous êtes vous-même engagé dans la chanson française, vous soutenez beaucoup la qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez des gens à soutenir ?
J'ai commencé une série de télévision, Les Lumières du Musical, en 1995. On m'a rayonné, on m'a dit « mais la chanson est un art mineur, ça n'intéressera personne ». Aujourd'hui, elles sont dans les écoles, ces chansons, ces émissions. Des professeurs me les demandent, à tel point qu'on va créer une nouvelle série qui sera disponible pour les écoles en plus de la télévision et grâce à Internet. Je pense que les jeunes sont avides de notre passé pour préparer l'avenir. Et l'avenir, ben, il n'est pas terrible. Participant à l'émission Shabada, je vois dans les coulisses les jeunes chanteurs arriver avec le chef de produit. Trenet disait « comment peut-on être directeur artistique ? » On ne parle plus d'un disque mais d'un produit. En général, ils ont 20 ans, ils n'alignent pas 3 mots en français. La chanson a été écrite sur un coin de table. On n'en retient pas une parole et il n'y a pas de mélodie. Et ben, c'est un produit jetable, c'est-à-dire qu'au bout de 2 disques, ils cherchent un style, ils ne le trouvent pas et c'est fini. Et au milieu de ça, il y a quelques artistes de talent dont les médias ne parlent pas, qu'on découvre petit à petit, qui eux seront la relève. Et c'est pas étonnant, mais ces gens-là, ils aiment Brassens, Trenet et Brel. Les trois, et Piaf aussi, une quatrième référence. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il y a un avenir, mais je pense que les maisons de disques, les grandes maisons de disques, les majors, comme on dit en bon français, sont responsables de la crise que nous traversons actuellement. Et qu'au milieu de tout ça, il y a des producteurs artisans qui font leur travail, qui vont vers un public discret, discrètement. Et ce public, ben, il est content d'avoir de belles chansons et il va vers eux. Donc, petit à petit, la route enchantée de la chanson française va recommencer. Et je pense que le rôle de l'Institut est indispensable là-dedans. C'est-à-dire que mettre la chanson française en valeur, parce qu'on a des poètes et des chanteurs, c'est indispensable. Et si je peux me permettre une critique, je considère qu'au Beaux-Arts, la chanson française n'est pour l'instant pas assez...
Pas assez représentée.
Pas assez représentée, voilà.
Justement, à propos, pour parler de la méthode de Charles Trenet, je veux citer un passage de votre livre où vous expliquez pour écrire une chanson comment ça se passe. Alors, il avance d'un bon pas, il observe le ciel, les nuages, les arbres, la plage, notamment dans cet endroit qu'il affectionne beaucoup qui s'appelle Canet Plage, se laissant ensuite guider par son inspiration. Et il dit « Je fais mes chansons comme un pommier fait des pommes. Ce n'est pas moi qui les choisis, c'est elles qui viennent à moi. » C'est très joli.
Oui, mais Trenet était un poète. Il a été formé par Albert Bozil, il a connu Max Jacob, Jean Cocteau. Il était chanteur un peu par accident et Cocteau a d'ailleurs dit « Trenet a amené la poésie à la rue ». Et c'est exactement ça. Trenet soignait ses phrases, il soignait ses formules. Quand il ne trouvait pas un mot, il avait son dictionnaire à portée de la main. Combien d'auteurs de chansons font ça aujourd'hui?
Et à l'époque, les cris dans le cri catalan, le futur coq catalan qu'a créé Albert Bozil, et il fait venir à Perpignan des gens comme Jean Giono, Antoine de Saint-Exupéry, Henri de Monterland de l'Académie qui écrivent dans ce journal, ce qui prouve bien que la qualité fait aussi se déplacer les grands.
Écoutez, on est dans une époque où il y a beaucoup de produits jetables, tout ça dans la chanson, la littérature et autres, et le public, il sait où il va vers la qualité. Une carrière, c'est un marathon. Trenet a mis des années, Brassens a mis 10 ans, Brel a connu la vache enragée pendant 5 ans, on ne devient pas poète, auteur ou chanteur du jour au lendemain. Il y a une chose toute bête qui s'appelle l'expérience.
Et c'est ce que disait Charles Aznavour, que nous avons reçu également sur cette antenne ce matin. Juste une question plus personnelle. Vous l'avez rencontré, vous avez eu la chance de faire partie de son cercle d'amis. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous faire partager? De quoi parliez-vous lorsque vous rencontriez? Est-ce que vous ne parliez que du métier, que de sa vie à lui? Est-ce qu'il regardait aussi les autres? Est-ce qu'il s'intéressait au monde qui l'entourait à l'époque?
En permanence, Charles Trenet s'intéressait à l'avenir. D'abord, il découpait les journaux tous les matins, il voyait des faits d'actualité, il servait de ça pour faire des petits poèmes qu'il gardait pour lui. Et puis, il était très intéressé par tout ce qui se passait, par la chanson en particulier. Il a été le premier à croire à Florent Pagny, en Patrick Bruel, quand personne n'y croyait. Je l'ai vu un jour à la Closerie des Lilas remonter le moral de Renaud qui était au plus bas pour dire « il faut continuer ». Donc dans son domaine, il connaissait des choses. Mais il connaissait aussi le théâtre par cœur, il connaissait le cinéma, il regardait beaucoup la télévision et il lisait beaucoup. C'est-à-dire que toute nouveauté littéraire l'intéressait. Et c'est peut-être pour ça qu'il est resté jeune toute sa vie. Alors des anecdotes, il y en a beaucoup sur le passé, parce qu'il parlait beaucoup plus volontiers du passé que du présent. Mais il y a des choses extraordinaires. Un jour, en 1943, et ça, il me racontait une anecdote sans arrêt, il était très ami avec Jean Cocteau, il se téléphonait tous les jours. Il est d'ailleurs la dernière personne à avoir eu Jean Cocteau au téléphone.
C'est ce que vous expliquez dans le livre, effectivement.
Et c'est la première du soulier de satin, mise en scène par Jean-Louis Barrault, mais dans sa version originale de Paul Claudel. 5h30 de spectacle en plein couvre-feu en 43. Vous imaginez les difficultés. Donc le lendemain, Trenet téléphone à Cocteau et il lui fait « Mais comment c'était ?» Et en parlant du soulier de satin, Cocteau dit simplement « Heureusement, il n'y avait pas la paire. » C'est l'esprit de Cocteau, c'est l'esprit de Trenet qui disait d'ailleurs « Dans la vie, il y a les poètes et les grandes personnes et je crois qu'ils sont restés résolument tous les deux dans la première catégorie. »
Vous alliez souvent dans sa maison en Provence. Vous êtes allé de temps en temps Comment se passaient ces déjeuners en Provence où Charles Aznavour également se joignait?
Charles Trenet avait plusieurs maisons. Il avait une maison à Narbonne qui a été rachetée par la ville et qui est transformée en musée. Il y avait une maison à Aix-en-Provence qui est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé où les déjeuners se passaient l'été à 14h. Alors c'était un déjeuner frugal, c'est-à-dire composé de 4 plats. Pour lui, c'est frugal. Et c'est vrai qu'il aimait manger, boire et raconter. Il avait sa cuvée personnelle et ça le faisait beaucoup rire parce qu'il appelait ça le jus d'Aix. Et il y avait le rouge de honte, le blanc de rage et le rosé de pudeur. Et ces moments étaient des moments où justement on se retrouvait entre amis, 6-8 maximum, et ça partait dans tous les sens. Mais on riait beaucoup, et c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il disait n'importe quoi, mais c'était tellement drôle qu'on riait. et d'autres moments étaient plus profonds. Et je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi profond, d'aussi intelligent, d'aussi cultivé. Et c'est un exemple qu'il ne montrait pas, mais si j'ai fait ce livre, c'est aussi pour montrer qu'il y avait un Trenet qu'on méconnaissait, qui était un homme qui était passé à côté de personnes importantes dans le siècle et qui l'avait raconté.
Une grande culture, effectivement. Merci en tout cas de lui rendre hommage dans ce livre intitulé « Trenet, le philosophe du bonheur » chez l'Archipel. Et nous nous quittons sur cette note très agréable. Quelle est votre chanson préférée de Charles Trenet, Monsieur Pessis ? C'est dur de choisir.
C'est totalement impossible à choisir puisqu'il y a des chansons pour toutes les heures de la journée.
Il y a une que
oui, on a des moments tristes, on chante certaines chansons. Il y en a une que j'affectionne particulièrement, parce que je crois être l'un des rares à l'avoir chantée à l'Olympia. C'est une chanson qu'il a écrite en 1944. Il est dans un tram à Bruxelles avec Francis Blanche, jeune fantaisiste. Et puis l'un voit Debbie de lait et l'autre dit Debbie de l'eau. Et ils font le tour de Bruxelles en tram et au bout d'une demi-heure, en riant beaucoup, ils ont écrit Debbie de l'eau, Debbie de lait, qui est un exercice de style épouvantable, mais qui mériterait d'être retenu dans les cours de comédie. Parce que c'est très très bon pour la prononciation.
Merci beaucoup Jacques Pessis d'être venu nous parler de Charles Trenet, membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Merci Miss Émilie, d'ailleurs le titre d'une chanson de Charles Trenet.
Merci.